Radio Grand Ciel, clé en main de décembre, avec mon entretien signé Léna Adam, que nous recevons pour une heure d'émission pour prendre le temps de parler. Léna Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Récompense aux éditions de l'Harmattan, un récit selon la couverture de ce premier livre. Vous êtes française d'origine roumaine, vous vivez en France depuis 1982, spécialiste de culture et de civilisation française et critique cinématographique et aussi journaliste, notamment à la radio roumaine et à RFI. Votre histoire de vie est une belle aventure de vie, nous allons commencer par le début, si vous le voulez bien. D'abord roumaine et dans la Roumanie de Nicolae Ceaușescu, dont les Français se rappellent la fin tragique en décembre 1989, à la suite de la révolution populaire contre le régime communiste en place. On se rappelle la sinistre Securitate et Elena Ceaușescu, la femme du leader communiste. Comment vit Léna dans cette Roumanie de l'Europe de l'Est de ces années?
Mais je dois commencer par le début du communisme en Roumanie. J'avais 10 ans quand le régime s'est installé. Et j'ai dû renoncer à l'école Notre-Dame de Sion, en français, où ma mère m'a inscrite, dans l'idée de finir le lycée et après faire les études en France. Donc c'était fini. Donc la première conséquence, je l'ai eue sur ma vie, ma petite vie. Mon père, qui avait beaucoup d'intelligence et de sagesse, nous a dit un jour à table, à ma mère et à moi, j'étais enfant, 10 ans, « Ceux-là ne partiront plus, même si tous les Roumains attendent les Américains, qui ne sont jamais venus. Si on veut vivre sous le ciel, libre, pas en prison, il faut tenir sa langue, fermer la bouche. On peut penser ce qu'on veut, mais ne pas le dire, et surtout ne pas à n'importe qui. » Et là, ça a été une leçon à vie. Ceux qui n'ont pas su faire ça, ils ont été en prison, dont mon premier mari, d'ailleurs. Et puis, on a eu un moment d'espoir en 68, Ceaușescu est venu en 65 au pouvoir, quand il a condamné l'invasion soviétique à Prague. Et on croyait qu'on va se libérer un peu. Non, pas du tout, il a été mis au pied tout de suite. Et puisqu'il fallait vivre indéfiniment sous ce régime, mais il fallait vivre parce que la vie d'un homme, 80, 100 ans maxi, non? Donc, il n'y avait pas d'échappatoire. Il fallait construire sa vie autrement. Et comme dans tous les pays opprimés, la vie se replie sur la famille et les amis. Et j'avais une famille, mes parents, très aimants, très travailleurs. Ils étaient photographes. Ils m'ont préparé pour être photographe, finalement. Et des amis, j'en avais toujours et je les ai encore. En plus, il y avait une vie culturelle aussi, musicale. La Philharmonie de Bucarest, par exemple, que j'ai fréquentée entre 14 et 18 ans, toutes les semaines. Et des fois, ils invitaient des artistes italiens, européens, de grande valeur. Et c'est là que j'ai fait ma culture musicale, tout en exerçant le piano de 6 ans à 18 ans. Je n'ai pas eu la patience de rester à exercer au piano plus d'une heure parce que mon tempérament est tel, je n'avais pas la patience. Mais ça m'a formé l'oreille musicale, sans savoir qu'un jour j'allais travailler à la radio et que ça compte beaucoup. Parce qu'un commentaire, tu le prolonges par la musique, il faut savoir choisir la musique, la mesure qui remplit le sens du commentaire. Donc, j'allais au concert, au théâtre. Excellent, le théâtre en Roumanie. Excellent. J'avais des amis, on faisait des fêtes tous les samedis soirs, chez nous à la maison. Il n'y avait pas de discothèque, hein. Il ne faut pas se leurrer. Mais on avait de grands appartements, on poussait les meubles, on faisait un buffet, on dansait jusqu'à 6 heures du matin, sans s'arrêter. On faisait des blagues. Une fois, j'ai organisé même une soirée littéraire. Chacun est venu avec un papier écrit par soi-même, dont le plus brillant était un étudiant en construction, donc pour devenir ingénieur et qui est devenu cinéaste, et que j'ai eu la chance de rencontrer 40 ans après, et qui a voulu faire un film de mon livre dont on va parler plus tard. Donc on peut vivre si on décale, on sépare la vie publique de la vie personnelle. J'ai eu mes amours là-bas. Quand on aime, on a des ailes. Mon premier amour passion, ce fut aussi mon mari qui m'a donné la fille, une fille, j'ai une fille, un seul enfant. Je n'ai pas pu faire un autre parce qu'il est parti avec une autre femme. Ça m'a blessé beaucoup, plus que le régime.
Au niveau professionnel, vous avez été journaliste à la radio d'État.
Oui, bien sûr, tout était État là-bas.
Ça se passait comment, le travail dans cette radio
D'abord, il faut dire que j'ai fait une philologie de français pendant 5 ans à l'université. Que mes professeurs étaient formés avant la guerre, surtout en France. Et un professeur en France a parmi ses cours celui de diction, pour pouvoir être entendu et compris. Donc, j'ai fait une philologie de français, et puis, la dernière année, pendant la session d'examen, on m'a sollicité avec 2 autres collègues pour passer un test à la radio. Et mon test de micro, c'est ça qu'ils cherchaient, une speakerine, a été le meilleur par rapport aux autres, qui étaient meilleurs en français que moi, il faut le dire. Et pourquoi c'était mieux le mien ? Merci papa. Papa avait une passion pour le théâtre micro, comment on s'appelle ça, les dramatiques, qu'il écoutait beaucoup. Comme il était photographe avec ma mère, comme il faisait des heures de retouches négatives, positives, ils écoutaient la radio. La radio, voilà, le destin. Et dès qu'un jeune entrait dans l'équipe des anciens, il ne comprenait plus ce qu'il disait. Mais c'est quoi ça? Moi, je suis le même. J'ai les mêmes oreilles. Et puis, il a dit, il n'a pas l'écho de la parole, c'est pas possible. Et il m'a sensibilisé à la diction. Voilà à quoi ça sert, à quoi tient une carrière. Parce qu'au test, j'étais meilleure au micro. Au moment où la représentante de la radio est venue me convoquer un test à la radio, pendant 3 jours, j'ai lu à haute voix dans la maison, en me promenant avec des textes comme ça. Et je suis respirée, je suis faire la césure là où il fallait. Et il paraît que l'équipe qui était dans la régie, ils ont dressé la tête quand ils ont entendu ma voix. Et voilà, je suis entrée à la radio. Et je ne suis pas photographe. Par contre, je suis restée photographe amateur. Et sachez qu'à 13 ans, je voulais être quoi ? Caméraman de cinéma. Parce que la photo était trop statique pour mon tempérament. C'est pour ça que je suis devenue après critique de cinéma. Je suis cinéphile. Et l'image, c'est l'un des piliers par lesquels j'ai réussi ma vie.
Vous étiez dans cette radio, dans quel registre, dans quelle rubrique ? L'international, le national, non, il fallait, l'actualité française.
Non, à l'époque, international.
J'emploie le mot
oui. À l'époque,
bon escient,
le système était le suivant. Il y avait une section centrale roumaine qui distribuait les textes pour les 19 ou 20 sections en langue. J'étais au département langue de Radio Bucarest. Nous, en français, on émettait des émissions pour les pays francophones d'Europe et d'Afrique. Donc, on traduisait les textes qui venaient d'en haut. Des fois, c'était intraduisible, mais bon. Parce qu'on sélectionnait d'après le dossier, pas d'après les talents.
Des textes de mauvaise qualité.
Oui. On avait des demi-pages. Je sais que lorsque j'ai passé le test, il y avait une phrase qui commençait sur la première page et qui finissait sur la deuxième. J'avais rien compris. C'est pour ça que mon test de français n'a pas été le meilleur. Voilà. Et donc, et c'était la structure. On avait un contrôleur de texte, parce que les textes devaient être traduits du roumain en français. On avait un dactylographe. Le journaliste devait traduire à la dactylo le texte. Il y avait un contrôleur de texte. Ensuite, il y avait un contrôleur d'émission. La speakerine, le speaker, comme moi, devait lire les textes qui ont été traduits avec la dactylo, contrôlés par le contrôleur, et aller dans l'émission, lire au micro. Petit à petit, j'ai appris à taper à la machine, à rédiger moi-même. Mais il y avait peu d'émissions faites par nous-mêmes. Par contre, les interviews, oui. Il fallait les traduire. Je faisais des interviews en français, bien sûr. Il fallait les traduire en roumain, parce qu'on avait plusieurs censeurs au-dessus de nous. Et on a eu un chef de rédaction, paix à son âme, qui a su me mettre le stylo à la main pour apprendre à écrire le langage de radio et en général. Autre pilier de ma vie, par lequel j'ai réussi ma vie, l'image et l'écriture. Et des fois, il coupait. Et je disais, patron, on l'appelait patron comme en France, mais ce n'est pas le cas. Patron, mais la phrase reste en l'air. Bon, il vaut mieux la phrase que moi. Il vaut mieux que la phrase reste en l'air que moi, que je saute en l'air. Parce que chaque mot pouvait être interprété. Mm-hmm. Il y avait des thèmes malades, de peur. Tout le monde avait peur. La peur, c'était le dénominateur commun.
Le moteur, général.
Le dénominateur commun. De sorte que j'arrivais vers 40 ans, je me sentais plafonnée. Il ne fallait plus utiliser que 10 mots qui passaient à la censure comme ça, sans être interprétés. 36e sens, tu ne penses même pas à ça. Comment il est sorti, je ne sais pas. Et puis, il y avait des rédacteurs en chef qui contrôlaient un texte. Et au lieu de changer un mot qui le gênait, il barrait toute la page et te jetait tout l'article. Alors que mon chef, Léon, il savait corriger, il savait transformer la phrase. Il fallait t'expliquer pourquoi. Paix à son âme.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time.
Venons-en, car le livre est entièrement avec le lien de votre mari, Robert Adam. Votre livre, c'est un formidable livre d'amour pour le célébrer, oui. Votre mari, homme exceptionnel s'il en fut. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre, votre communion de couple, son histoire personnelle, qui est fabuleuse par moments, votre histoire commune?
Pour l'avoir connu en 79, il faut revenir 4 ans auparavant, en Roumanie. Et c'est grâce à mon métier, à ma profession de journaliste. Car j'ai rencontré à la réunion de l'Union interparlementaire tournante qui avait lieu cette année-là à Bucarest, la délégation française conduite par un certain monsieur Francis Palmero. Il était maire de Menton, député des Alpes-Maritimes et sénateur. Et pour faire court, à la fin de la semaine folle de travail en courant de l'Assemblée nationale à la radio, en traduisant les interviews à la rade, le dernier jour, un dimanche, c'était le cocktail d'adieu. Et là, il entre en contact avec moi pour parler comme ça. C'était un type jovial, bedonnant.
Méditerranéen.
Méditerranéen, typique. Et il s'étonne de voir que je suis au courant de la vie, de l'actualité politique, l'actualité culturelle, les spectacles. Mais comment est-ce possible? Parce que tous les Français qui venaient en Roumanie à l'époque, derrière le rideau de fer, s'imaginaient qu'ils arrivaient chez les troglodytes. Or, tout le monde n'était pas les troglodytes. Il y avait quand même des gens qui lisaient, qui avaient une culture. Et je lui ai expliqué que j'ai la chance de pouvoir avoir accès à la documentation spéciale de la radio. Tout le monde n'y avait pas accès. Et là, je lisais le Point, l'Express. Dieu, quel régal, une langue française de qualité. Et lui dit, mon Dieu, et nous qui jetons les revues à la poubelle, est-ce que je peux vous les envoyer? J'ai dit oui. Tout en pensant que le lendemain, je vais raconter au service personnel, au parti, qu'il m'a proposé ça, que je ne pouvais pas dire non. Parce que qu'est-ce qu'il aurait cru, ce monsieur, que nous ne sommes pas libres? Ils n'auraient pas pu dire le contraire, non? Moi, ils ne m'ont pas demandé, mais j'ai quand même annoncé. Et pendant un an, je recevais des rouleaux de revue. Je remerciais par une carte postale qui passait à la censure, chaque fois. En plus, Noël, Pâques, des dates importantes. Et au bout d'un an, il ne m'a plus envoyé. Mais moi, j'ai continué à écrire des cartes postales à ce monsieur, sans savoir que 4 ans après, 79, j'aurai l'occasion de revenir en France, invitée par une amie que j'ai connue toujours grâce à ma profession. Mais en 70, oui, elle est venue comme chanteuse, représentante de la France, à un festival de la chanson. Et on est restés amis. Elle m'a invitée en France 2 fois. La deuxième fois, c'était en 79. Et la dernière semaine des 4 à passer à Paris, j'appelle au Sénat, comme ça, à 5h de l'après-midi, quand tout le monde est parti. Mais quand les choses doivent se faire, Alain, elles se font. Le Standard a répondu tout de suite. J'ai dit, je cherche M. Francis Palmero. Ah, je vous le passe tout de suite. Il est venu au téléphone. Il s'est rappelé de moi. Ah, quel plaisir, mais quelle chance, parce que j'aurais dû être à Genève. Mais la réunion était tellement ennuyeuse que je me suis sauvée depuis hier. Il s'est sauvé pour moi. À quoi tient un destin? Merci Genève. Et les réunions ennuyeuses. Et c'est lui qui m'a fait la connaissance avec celui qui allait devenir mon mari. Mais c'est lui qui m'a appelé le lendemain chez mon ami qui habitait à la Tour Eiffel, près de la Tour Eiffel. Mon ami me dit, viens au téléphone, il y a un monsieur pour toi. Pour moi, personne ne me connaît ici. Non, viens. Et j'entends une voix. Une voix d'homme. Une voix pleine. Comme j'ai dit à la dernière présentation, une voix à faire des enfants. Et c'était un jeudi, il m'a invité à déjeuner. On a déjeuné ensemble. Je parlais de Paris d'une manière... Il a dit, moi je passe au même endroit, mais je ne vois pas la même chose. Paris chantait dans mes paroles. Et du coup, il dit, je vous invite samedi pour voir un film. Oh oui, formidable, parce que les cinémas en France, avec des fauteuils, on est bien installé, le son est bon. J'étais ravie. Quand j'arrive chez lui, il dit, changement de programme. Il y a un bon film à la télé. Mais oh, la télé. Bon, et j'ai fait un repas. Roumain, c'est fait par moi-même, parce qu'il était d'origine du nord de la Moldavie, de Botoșani. Bon, le film est exactement ce qu'il ne faut pas, messieurs, si vous voulez draguer une fille, une femme. C'était un drame. C'était le train qui vient de passer, d'ailleurs.
Oui, exact, sur Arte.
Voilà, hier ou avant-hier, le train avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant. Mais j'avais envie de pleurer, parce que c'était une histoire d'amour impossible. Moi, je suis romantique, la dernière qui échappait au 20e siècle. Je voulais rentrer, il voulait me garder. Alors, son appartement était de rêve. C'était dans une suite d'immeubles 18e, avec des poutres grosses comme ça, 4 mètres sous plafond. Il y avait des lampes partout, une belle lumière, il faisait chaud, il y avait de belles choses, des œuvres d'art. C'était un esthète, celui que j'allais... plus tard épousé. Et bon, il a compris que je ne voulais pas. Il a dit, mais tu peux rester ici, il fait chaud. Il savait que j'avais une chambre de bonne chez ma copine, chambre de mars. Et il faisait froid, c'était fin octobre. Moi, je voulais rentrer pour pleurer, parce que je ne pouvais pas pleurer devant un inconnu. J'avais la bonne éducation. Et il a eu la gentillesse de m'accompagner en taxi jusqu'à l'adresse. Et là, j'ai mis mes mains sur les siennes et j'ai dit merci pour votre délicatesse. Mais pendant la soirée, il m'a dit, j'ai réservé des places de théâtre mardi au théâtre de l'Athénée. C'est une pièce avec Pierre Dux qui est Société de la Comédie Française. Oh, au théâtre, oh, ça, je n'osais même pas penser à Paris, aller au théâtre. J'avais pas d'argent, moi, j'étais une pauvre petite de l'Est, mais j'étais heureuse d'être à Paris, même sans rien, me promener comme ça, voir, sentir Paris. Et à partir de ce moment-là, il ne m'a plus appelé. Ha, ha, ha. Ni dimanche, ni lundi, ni mardi. Ah, vous voyez, hein, vieux renard, comme il sait faire avec les femmes. Et j'ai commencé à me sentir un peu attachée, comme ça, à l'idée que quel homme, quelle manière, et là, parce que je n'ai pas connu ça en Roumanie, des manières élégantes, comme ça, de gentleman. Bon, j'arrive au théâtre. Il était là. Heureusement, je l'ai vu. Il était très élégant toujours, très élégant. Il avait un par-dessus beige, j'avais structuré comme ça. Mais il était triste. Bon, il n'a pas digéré le fait que j'ai refusé de rester chez lui. Il m'a proposé le samedi même de se rencontrer à Nice, parce que je devais partir à Marseille 5 jours après. Et l'orgueil des hommes, ça, vous devez en connaître un rayon, non, Alain?
Sans doute.
Voilà. Je lui fais la bise sur les deux joues. Je dis, j'ai soif. J'ai mis une heure sur des talons comme ça, du Champ de Mars jusqu'au Trocadéro pour prendre un métro. Il me dit, quoi? Tu n'as pas mangé? Je suis perplexe. Je n'ai pas dit que j'ai faim, j'ai dit que j'ai soif. Il n'est pas venu avec moi au bistrot. Il dit, vas-y, je demande un verre d'eau. J'avais honte de faire ça, mais finalement, je suis allée, en invoquant que je vais prendre un médicament, on m'a donné un verre d'eau. On voit la pièce qui s'appelle, en français, La fraîcheur de l'aube. C'est une pièce américaine, Goodbye People, de Herb Gardner, qui nous a mis dans une bonne humeur extraordinaire. Pierre Duc, c'est extraordinaire. Comment il s'appelle André Dussolier, tout jeune. Il était au début de sa carrière qui jouait dans cette pièce. Bon, on arrive dans la voiture pour partir. Il me dit, donc, je t'emmène manger quelque chose. 2 heures après, j'ai soif. Quoi, tu n'as pas mangé? Non, je n'ai pas eu le temps. 2 heures après, donc, je t'emmène manger quelque chose. De toute façon, ma copine m'a dit, arrange-toi pour qu'il te donne quelque chose à manger parce qu'à la maison, on n'a que du pain sec et de la confiture. Je m'en fous de manger. Et il m'amène à la Calavados. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est rue Pierre Ier de Serbie, rue parallèle aux Champs-Élysées, réputée pour le fait que les paparazzi n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Donc, il y avait tous les artistes, les princes, les princesses. En bas, c'est la brasserie, en haut, c'est le restaurant. Et là, j'ai senti fondre pour cet homme. Et lui aussi pour moi. Pendant que je mangeais, j'avais un pianiste de jazz, un pianiste de couleur Joe, réputé au fond de la salle. Et ce soir-là, 3 musiciens mexicains avec des sombreros comme ça qui jouaient, qui venaient chanter, je s'accompagnaient de la guitare, à chaque table. Ben, il ne me faut pas beaucoup, moi, pour sombrer. Et lui, il a pris un whisky pendant que je mangeais, et les musiciens. Hein. Et puis, il prend la carte de visite de la Calvados et écrit ça en diagonale, « Dommage pour un contretemps ». Et moi, j'écris aussi, même les contretemps peuvent devenir rythmiques, enfin, je ne sais pas comment j'ai écrit, pour revenir au tempo, voilà. Et de là, à 2h du matin, on rentre dans la voiture pour m'accompagner, Champ de Mars éventuellement, non? Et on roulait à 5 à l'heure sur le trajet royal, pont Alexandre de Troyes, l'esplanade des Invalides. On ne se parlait pas. Lui, sans doute, il n'osait plus me demander de peur d'être encore refusé. Moi, je me demandais, mais... et s'il me demande, qu'est-ce que je dis? Et quand il ne pouvait plus avancer, parce que c'était le musée de l'armée en face, non? Et là, il me demande à droite, donc au Champ de Mars, ou à gauche, Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai dit à gauche. Et me voilà en France.
voilà en France, disons que ça ne s'est pas fait d'une manière simple.
Non, non, pas du tout.
Puisque vous, roumaine, lui, français,
oui.
Il a fallu que vous sortiez de Roumanie. Comment cela s'est-il passé? Et son action à lui, elle était de quelle sorte? Par rapport à son passé également, puisqu'il
oui,
a
sûr,
un passé,
ça, il faut
comme
dire
je disais
que
tout à l'heure, assez éblouissant.
Deux jours après, je devais partir à Marseille. Et partir à faire une boucle par l'Italie. Florence, Venise, Vienne, Bucarest. Et lui, il a dit, bon, reste à Marseille, je viens te chercher. Mais reste une semaine, parce que comme il a été refusé le samedi, il s'est fait inviter chez des amis en Angleterre. Et pendant cette semaine, il m'appelait tous les jours, et notre amour se contourait, pour ainsi dire. Et il m'a accompagné de Marseille jusqu'à Vienne, y compris de Milan à Venise, en Orient Express. Ceux qui n'ont pas connu l'Orient Express, au moins un morceau. Il ne faut pas mourir avant, il faut le faire. Et à Vienne, je savais que le lendemain, on se séparait définitivement. Lui vers la France, moi vers la Roumanie. Lui vers un pays de liberté, moi vers un pays de dictature. Et c'était déchirant. On était amoureux, transi. Et la dernière nuit, il lisait le journal en allemand, parce que comme il était de mère viennoise, il parlait cinq langues, dans chaque pays il lisait le journal dans la langue respective. Il était au lit et moi j'ai écrit une lettre. Et je peux vous lire
un morceau? Ah, avec plaisir, oui. Avec plaisir.
Parce que c'était déchirant pour moi. 14 novembre 1979. Mon ami, mon cher amour, mon espoir, mon désespoir, mon homme fait de délicatesse, de savoir-vivre et jeunesse d'esprit. À l'heure où je t'écris ces lignes, nous sommes encore ensemble, à 2 mètres l'un de l'autre. Alors qu'à partir de demain, nous serons à plus de 2000 kilomètres. Je pense intensément aux douces journées de bonheur que tu viens de m'offrir et je t'en remercie. Demain, il faudra laisser mes sentiments à la frontière. Mais je te confie mon cœur, libre comme l'est toute ma personne en ce moment. Tout est gris, pluie et tristesse. L'un va vers le levant, l'autre vers le couchant. Je t'envoie les matins mon soleil. Toi, aide-moi à dormir après son coucher. Mes rêves seront de toi. Ils peupleront mes nuits pour mieux vivre le jour. Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Je préfère m'ancrer dans hier. Je t'aime. Quitte. Il m'appelait comme ça, c'est l'onomatopée rappelant le cri d'une souris. Et ça a marché parce que lui, dans le train, il a été retourné, puis il est venu 2 mois après à Sinaïa, dans les Carpates, pour skier. Il a réservé l'hôtel Sinaïa. Moi, j'ai réservé au même hôtel en allant avec ma mère comme auparavant. On se rencontrait au restaurant. Mais il faut dire que pendant ces 2 mois, au carrefour de 79-80, il est parti pendant 3 semaines faire le tour du Mexique par Club Med. Et de là, il m'envoie des cartes postales, parce que je lui ai dit, je ne pourrais pas vivre si tu ne m'envoies pas des cartes postales tous les 2 jours ou 10 jours maxi. Et dans l'une des cartes postales, il a mis une phrase, une petite phrase, qui m'a dit « Ah, il viendra me sortir d'ici. » Et j'en ai parlé à mes parents. Cette phrase était « Je suis sûre qu'un jour tu verras toi aussi ces merveilles. » Les temples mayas, les temples aztèques. Donc quand je suis allée avec ma mère à Sinaïa pour le rencontrer au même hôtel, ma mère était en quelque sorte préparée, avec mon père d'ailleurs. Et comment a été la demande en mariage? Je vous le demande. jamais entendu ça. Il savait à quel point j'étais liée à ma mère, surtout, qui m'aimait d'un amour passionnel. Et il demande, on est au restaurant, lui, moi ici, hein, l'orchestre derrière, parce que toujours chez les Roumains, la musique, c'est toujours la fête. Il demande, est-ce que tu pourras vivre sans elle? Et ma mère lui a dit, si c'est pour son bonheur, oui. C'était ça, la demande à Maria, c'était en février. Maintenant, il fallait voir comment me sortir de Roumanie. C'était les années 80, les plus sombres de la dictature de Ceausescu. On ne trouvait rien dans les magasins. Les rues n'étaient pas éclairées. Dans les maisons, il faisait froid. Pas chez nous. Moi, j'étais privilégiée parce qu'on était sur une conduite de gaz qui reliait l'école militaire à un hôpital. Donc, on avait la chaleur. Il y avait des amis qui venaient prendre le bain ou la douche chez nous. Il y a des maisons où même le chat ne sortait pas de la couette, hein, tellement il faisait froid. Donc il est revenu en juin avec un rendez-vous chez l'ambassadeur de France à Bucarest pour lui dire comment faire pour sortir ma fiancée de Roumanie avec sa fille. Et moi je voulais partir légalement pour pouvoir retourner parce que je sentais que c'était une déchirure de quitter mes parents, et surtout mes parents vieillissants. Et l'ambassadeur lui dit, la dame est journaliste, oui. oubliez cette voie par le Conseil d'État. Ils vont ajourner, remettre le dossier jusqu'à ce que le fiancé ou la fiancée meure. Oubliez, chercher une autre voie. Et l'autre voie, c'était Tamara, ma mère, qui était juive, mais juive non pratiquante. Mon père était orthodoxe chrétien athée complètement, et moi je suis orthodoxe chrétienne croyante. Pas tellement pratiquante, mais croyante. Et là intervient l'idée de ce qu'il avait fait 47-51. J'arrive à votre question. 47-51, le moment Prague, qui s'appelle Prague. Il était déjà depuis un an en France. Dans le livre, au sixième chapitre, je parle de leur fuite en 1942, en pleine guerre. La Roumanie était aux côtés des nazis, n'oubliez pas. Ils partent avec un petit bateau, je le raconte dans le sixième chapitre, en espérant arriver deux jours après à Istanbul, où ils ont été refoulés parce que c'était dominion britannique. Bon. Les péripéties pendant 6 mois en faisant une navigation de côtière avec des accidents et des, enfin ils ont tous survécu. Et puis après 2 ans presque à Chypre, ils ont arrivé enfin en Palestine, et puis en 46 il est revenu tout de suite en France pour récupérer les enfants de son frère qui était médecin de campagne en Bretagne, et puis qui s'est suicidé pour ne pas être de nouveau arrêté par les nazis, et la solution finale. Et il s'est lié pour faire une affaire de wagon, de train, enfin des affaires, entre la Tchécoslovaquie et la France, avec un associé qui était le... C'est lui qui avait l'affaire, et puis il est associé à ce monsieur. Donc il connaissait bien Prague. Lorsque la question des armes pour la Haganah se posait. Pourquoi? Parce que l'ONU avait voté, souvenez-vous, après la guerre en 1945, la création d'un foyer juif en Palestine. Même Staline a voté pour, qui est un antisémite notoire, maladif. Mais pourquoi il a voté pour? Parce qu'il a cru que les kibbutz, la forme de coopérative qui existait déjà depuis des décennies là-bas, ressemble au kolkhoz soviétique. Et il s'est imaginé avoir un pied là-bas, si Israël devient un pays socialiste comme nous, de démocratie populaire, démocratie, oui, Bon. Et l'État devait se proclamer en mai 1947. Et on savait qu'il y avait des pays arabes autour qui allaient le sauter dessus pour combattre la création de cet État. Et la Haganah, qui était l'armée des Juifs de là-bas, était en sandales, en short, n'avait rien. Et Ben Gurion a chargé Golda Meir, qui avait 25 ans, il était jeune, d'aller aux États-Unis et de récolter en cachette, en secret, de l'argent de lobby juif. Pourquoi en secret ? Parce que personne ne voulait encore un conflit. Et on savait que là, ça bouillonnait dans cette région-là, au cas où. Golda Meir, donc, collectait de l'argent aux États-Unis, mais elle l'envoyait en Europe ou à Genève. Qui avait droit de signature et d'envoyer cet argent dans une banque de Prague ? C'était mon mari, Robert Adam. Il est entré dans l'histoire, le stylo à la main. Il allait ensuite à Prague. Et là, il signait encore pour envoyer l'argent aux usines de Brno, Zbrzovska, enfin, non, imprononçable. Et ça s'est passé pendant 4 ans. Bon, il faut lire le livre parce qu'il y a trop de détails pour les donner. Ces armes devaient être transportées de l'usine à Haïfa, en Palestine. Il y avait 2 jeunes qui s'occupaient de ça, qui arrivaient jusqu'à Rijeka, en Yougoslavie, sur la terre, et ensuite ils embarquaient sur un bateau, surveillé par des gens de la Haganah d'ailleurs, couvert d'oignons, au cas où ils étaient arraisonnés, parce que la mer Méditerranée était sillonnée par des sous-marins britanniques qui surveillait tout, justement pour empêcher un conflit encore. On sortait de cette horreur de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. L'État d'Israël se fait, les années passent. L'un des 2 garçons qui transportait les armes, qui s'était illustré, c'est pour ça que Ben Gurion l'a nommé, pour faire cette action très difficile et secrète, qui se faisait, je fais une parenthèse, qui se faisait parachuter en Transylvanie la nuit, avec 3 petites lumières au sol, pour embarquer des juifs pour les sauver du nazisme. Parce que la Transylvanie, surtout le nord, appartenait à la Hongrie. Et la Hongrie était dans l'axe, on sait. L'un de ces jeunes qui transportait les armes, Dan, il s'appelait Dan, Dan Ishayahu, a grimpé ensuite les échelons du Mossad. Et dans les années 70, donc 20 ans après, il négociait directement avec Ceausescu l'achat des Juifs. Parce que Ceausescu vendait du pétrole, des Allemands de Transylvanie, et des Juifs. Mais pour les Juifs, il posait encore une question. À part l'argent, en fonction de la qualification de chacun, que le lobby juif des États-Unis fassent pression sur la Maison Blanche pour accorder à la Roumanie la clause de la nation la plus favorisée pour le commerce. Ça coûtait cher, hein, un juif. Bon. Et c'est ce Dan Ishayahu que Bob a contacté après avoir vu l'ambassadeur de France à Bucarest. Et il a dit « Ah, j'attends depuis 30 ans pour te récompenser de ce que tu as fait ». Pour l'épisode Prague. Et la récompense est là. Et c'est le 5e chapitre qui est dans le titre du livre. Et la récompense, c'est la sortie d'une femme avec sa fille. Donc de moi et de ma fille.
Et votre arrivée en France ?
Mon arrivée en France, ça s'est fait par Israël. Mm-hmm. Je suis restée 6 semaines pendant ce temps. Il a fait tous les papiers en règle pour entrer... légalement en France, moi pour le mariage, ma fille pour des études supérieures. Et ce que ce Dan a fait pour nous, nous sommes partis avec de Roumanie comme émigrés en Israël. Et à l'aéroport, il nous a transformé nous a transformé le visa d'émigrer en touriste. Donc j'étais pas obligée de rester là-bas 6 mois. On était 6 semaines, on a visité Masada, la mer morte, Jérusalem, le nord, Haïfa, on a profité, ma fille et moi. Et je suis arrivée en France le 26 janvier 1982. C'était le plus beau jour de ma vie. Et comme disait Romain Gary, auquel je fais allusion souvent, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines.
Une superbe formule.
Oui.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Parce que vous savez, la France et Paris, et pour l'aimer, il faut l'avoir rêvé.
Et vous l'aviez rêvé.
Et je rêve de Paris depuis l'âge de 6 ans. Mmh. À 6 ans, je croyais qu'il y avait 2 villes dans le monde, Bucarest et Paris. Mmh. Comment ça ?
Donc parce vous en connaissiez une et vous vouliez connaître l'autre.
Parce que la Roumanie, à l'époque, dans la deuxième langue, c'était le français. Il y avait des maisons où on parlait français. Pas chez nous, parce que mes parents étaient modestes. Ils n'avaient pas de culture, mais ils ont voulu investir en moi tout ce qu'ils n'ont pas eu. Pour que je grimpe, que j'avance. Toujours plus loin, toujours plus haut.
J'ai fait lire votre livre, La Récompense, à une jeune fille de 17 ans. Et elle m'a posé une question, elle n'est pas féministe du tout. Mais elle m'a dit, voilà, Lena Adam dit dans son livre qu'elle est la 5e épouse de Robert, de Bob, comme vous l'appelez. Il a eu des maîtresses. Est-ce que elle a accepté cela sans problème, ou bien est-ce que ça lui a posé des problèmes? Quelle est votre réaction, votre état d'esprit face à cette situation?
Je dois vous dire que j'avais une sagesse déjà qui s'est révélée à 27 ans quand mon mari m'a quittée pour une autre femme. Et quand je lui ai proposé de vivre avec cette femme 2 mois et revenir pour sauver le mariage et le père de ma fille. Ah, il a dit non, non, si tu me pardonnes une fois, je ferai une deuxième, une troisième fois. Quelle femme à 27 ans fait ça? Voilà. J'arrive en France à 40 ans. J'entre dans la vie de cet homme qui était plus âgé que moi. Il aurait pu être mon père. Mais qui avait une silhouette de sportif de haut niveau, de une culture, un petit brillant. Je n'avais pas le droit de lui cacher la vie, de lui gâcher la vie. Et il a su transformer toutes ses maîtresses, qui étaient encore plus jeunes que moi, toutes belles, je les ai connues toutes. Je les ai invitées à table, chez nous, ou bien au restaurant. Eh bien, il les a transformées en amies, qui toutes lui sont restées redevables, reconnaissables. Elles l'ont admiré jusqu'au bout. Parce qu'il a su dénicher chez elles, comme un Pygmalion, ce qui était le meilleur dans leur cerveau, dans leur cœur, dans leur, pour une carrière qui leur allait bien. Pas chercher comme ça, quoi. À la jeunesse, on ne sait pas ce qu'on veut, en général. Et toutes lui sont restées reconnaissables. Reconnaissantes.
Reconnaissantes.
Reconnaissantes, pardon. Donc, au début, bien sûr, dites à cette jeune fille que je ne menais pas large. Et je ne menais pas large parce que je voyais ces filles sûres d'elles, élégantes, bavardes. Et lui, le vieux renard, quand on était à trois, il regardait que l'autre, hein, pas moi. Pour me rendre jalouse, peut-être. Il réussissait. J'étais jalouse. Mais au fur et à mesure que je les ai toutes connues et que je me suis rendu compte que c'est moi, Madame Adam, pas elle, j'ai guéri. Et l'une des valeurs de mon livre, les valeurs universelles, c'est qu'on guérit de la jalousie. J'étais contente d'avoir un homme si brillant qui est aimé par tant de femmes, tant d'hommes, pas d'hommes autrement, comme ami.
Nous avons compris.
Et on dit d'ailleurs en France, ça j'ai appris en France, hein, qu'il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais coup.
Pour conclure, je voudrais lire tout simplement la dédicace que vous m'avez signée en page de garde de votre livre à mon sympathique confrère La Récompense, ce récit de voir, de mémoire, témoignage historique et surtout un hommage au Seigneur qui a changé ma vie. Merci, Léna Adam. Je vous ai demandé une playlist pour accompagner l'émission, pour les intermèdes musicaux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi Elvis Presley, Vladimir Kosma, etc., etc.
Elvis Presley, dans les années 60, j'étais une rockeuse de première, acrobatique, avec mon compagnon qui est devenu mon mari, au point que dans nos soirées, en famille, bien sûr, comme je vous ai dit, tout le monde faisait cercle autour de nous et nous laissait danser. Donc Elvis Presley, c'est ma jeunesse, c'est mon amour, mon premier amour passion. Et Love Me Tender, Love Me Too, Never Let Me Go. Ah, j'aimerais bien que mes amoureux ne s'en aillent pas, qu'ils ne m'abandonnent pas. Et j'ai aussi un rock, Jailhouse Rock, si vous avez le temps de le passer.
Tout à fait.
Voilà. Vladimir Cosma, c'est un ami. Il est roumain d'origine, comme vous savez. Son père était ami avec mon mari. J'ai fait plein de reportages de ses spectacles et des interviews avec lui. C'est comme un frère, si vous voulez. Et la musique du film Le Château de ma mère me tord le cœur, parce que l'amour que ma mère me portait est semblable à celui que portait la mère de Romain Gary. Peut-être ma mère n'était pas aussi exagérée que la mère de Romain Gary, mais elle me fait penser à elle. Elle me disait, ma mère, quand je l'appelais au téléphone de Paris, une fois que j'étais en France, « Je t'aime » à la fin de chaque conversation, en 5 langues. Elle n'en parlait que 3, mais pour dire « Je t'aime », elle le disait en 5 langues. Et quand j'étais à Bucarest, elle m'appelait tout le temps, partout. Mes amis, mes collègues étaient désespérés, mais je disais « Le jour viendra où elle ne pourra plus m'appeler. » Et voilà. Ça, c'est le château de ma mère. Strauss, le beau Danube bleu, le Danube. Ça baigne le sud de la Roumanie. Le Danube, c'est mon pays aussi. Et puis, les valses de Vienne, c'est ma vie. Je fonds de plaisir. Et je danse encore. Il y a des bals viennois à Paris, organisés par l'association autrichienne de Paris. Et je danse encore. Ensuite, ma jeunesse avec mon mari, mon premier mari, ma première passion, c'était le rock, mais aussi le jazz. Il était fou de jazz. Il était batteur dans l'orchestre de la faculté d'architecture, d'ailleurs. Et j'ai choisi Sidney Bechet, Bechet, petite fleur, très romantique, très jolie. Et pour la fin, j'ai réservé, étant donné que je suis mélomane aussi, musique classique de George Enesco, notre grand compositeur, qui fut le professeur de violon de Yehudi Menuhin, qui est né en Roumanie et qui est mort en France. La rhapsodie roumaine, la première rhapsodie roumaine, qu'il a écrite à 19 ans. Superbe rhapsodie. Et qui était l'indicatif de nos émissions en langue française quand je travaillais à Radio Bucarest, au département langue, à la rédaction française. 15 secondes après le début, je disais « Ici, Bucarest !» Donc, la rhapsodie roumaine, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre.